À quoi tu penses?
Bizarre.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre émission quotidienne, mélange d'actualités locales, de découvertes culturelles et de rencontres. Aujourd'hui, nous allons explorer des initiatives qui façonnent notre territoire. D'abord, un projet de solidarité au Tchad qui trouve des répercussions dans la région, notamment auprès des étudiants. Puis Lydia Hérault, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, nous rejoindra à distance pour discuter de la création d'un think tank dédié à l'agriculture de demain en Nouvelle-Aquitaine. Sans oublier bien sûr des pépites musicales et vos idées sorties. Et on accueille aujourd'hui donc Alexandra Bénard qui est chargée de communication chez Initiative Développement. Autrement dit idée, pour nous présenter un projet au Tchad. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, un projet qui vise à promouvoir la résilience climatique et l'idée, c'est aussi de prolonger les actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en Nouvelle-Aquitaine. Alors, racontez-nous déjà en quoi consiste ce projet qui est soutenu par la région.
Alors justement, donc, ce projet, donc, il a démarré en 2021 au Tchad. Là, actuellement, on couvre trois pays, le Bénin, le Tchad et le Sénégal. Mais je vais me concentrer sur le Tchad aujourd'hui, d'autant plus que Poitiers est jumelé avec cette ville. Et donc, le constat est simple, c'est de se dire, le Tchad est un des pays, en fait, pour lequel les changements climatiques sont les plus visibles, les plus impactants et les plus violents également. C'est-à-dire que ça se matérialise à la fois par plus de pluie, donc d'inondations, plus de sécheresse, plus d'événements climatiques, une grande fragilité en fait de la zone qui pourtant se trouve dans le sud du pays et constitue le grenier en fait du Tchad. Donc ça engendre vraiment une grande fragilité pour toute la population, pour tous les Tchadiens et plus particulièrement pour les gens qui habitent la zone du Logone.
C'est ça, c'est que ça a commencé par d'abord 3 années de diagnostic. Quels ont été les résultats?
Alors, c'est pas 3 années pleines hein, de diagnostic, bien évidemment, bien que ce soit toujours un prérequis pour une action de développement comme les nôtres. On n'arrive pas avec des idées préconçues et des solutions toutes prêtes et toutes plaquées d'un pays à un autre. C'est le meilleur moyen de se planter. Donc, on a toujours cette période de diagnostic qu'on va faire sur les territoires en travaillant à la fois sur quelles sont ses ressources, notamment en termes humains. Donc on a toujours des citoyens, des associations, des mairies qui sont là, qui se bougent, qui connaissent leur territoire, qui sont déjà en action, mais qui parfois peuvent manquer de moyens, de compétences. Donc nous, on va déjà commencer par cartographier ces personnes-là et voir comment est-ce qu'on peut travailler en fait ensemble et ce qui est déjà fait. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est de l'humain. De la compétence. La dimension après technique, elle va évidemment passer par un diagnostic plus géologique, plus climatologique, plus technique. Et c'est en fait en agrégeant toutes ces différentes photographies qu'on va pouvoir trouver le bon projet avec les bonnes personnes et les bons résultats, les bons impacts à emmener pour l'avenir.
Et justement là, c'est l'Union des femmes pour la paix au Tchad que vous avez identifié pour mener cette action.
Ouais, tout à fait. Alors l'UFEP, hein, c'est vraiment une association, c'est un collectif en fait d'associations féminines, vraiment des femmes remarquables avec lesquelles on a déjà travaillé sur de l'appui notamment sur de la construction de foyers économes à bois, sur des projets de reforestation, des petits projets en fait. On a aussi également travaillé avec elles sur des questions de lutte contre le VIH sur le terrain. Sur des questions aussi de citoyenneté, c'est vraiment des actrices qui sont phares sur le territoire. Elles sont reconnues, ce sont vraiment des personnalités qu'on suit et qui sont suivies par la communauté, qui ont cette capacité en fait d'emmener de courroies de transmission en fait entre des actions projets et les humains sur place.
Et alors concrètement là, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir mettre en place?
Donc elles sont un peu justement cette courroie de distribution, de mobilisation citoyenne, de sensibilisation. Résister, donc le projet pour lequel nous finance la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 3 grands volets, grosso modo. Un premier volet justement sur la lutte pour la résilience climatique, donc ça va être par exemple des actions concrètes, ça va être travailler sur de la reforestation communautaire, donc comment est-ce qu'on mobilise aussi les gens pour aller replanter des forêts. Ça va être aussi travailler sur de l'agroécologie, comment est-ce qu'on travaille aussi, donc je le disais, c'est un des greniers en fait du Tchad. Comment est-ce qu'on travaille et quels produits en fait on doit cultiver aussi pour améliorer la résilience, pour améliorer la perméabilité des sols et pour faire en sorte que la zone soit moins sensible à tous ces aléas climatiques. Et la dernière et le dernier volet qui n'est pas des moindres, c'est vraiment la question de la sensibilisation et de comment est-ce qu'on fait changer ces pratiques. C'est bien joli, en fait, de dire, bon, ben voilà, vous voyez bien que le territoire est de plus en plus souvent inondé, que les récoltes sont de plus en plus tardives et maigres. Maintenant, comment est-ce qu'on fait aussi cohabiter à la fois le comment est-ce que je survis d'ici demain et comment est-ce que je produis court, moyen et long terme. Et ça, c'est vraiment un travail qui est le plus précis, je dirais, le plus de dentelle et vraiment le plus où on a besoin des communautés sur place et donc de l'UFEP notamment, parce que c'est vraiment ces personnes qui ont la caution en fait morale, qui connaissent et qui vont permettre de faire adhérer aussi le plus de personnes à ce genre de changement de pratique.
Et on le sait, il n'y a pas qu'au Tchad que c'est difficile de changer ses pratiques.
Tout à fait.
C'est partout dans le monde, notamment en agriculture, c'est pas facile. Et d'ailleurs, il y aura des liens avec un volontaire tchadien dans ce projet qui va pouvoir sensibiliser en région Nouvelle-Aquitaine.
Oui, tout à fait. Donc on a la chance, et c'était intégré dans ce projet, de vouloir faire dialoguer le Tchad et la France, comme on le fait toujours en fait, sur nos projets, comme on a envie de plus en plus de le faire, en se disant... c'est pas nous, en fait, en France, qui avons toutes les compétences. Les compétences, elles sont de part et d'autre et il est important qu'elles se rencontrent et qu'elles soient disséminées sur les territoires. Donc, depuis le mois de juin, on a la grande chance d'accueillir Bienvenue, qui est un étudiant tchadien qui travaille avec nous, donc au siège à Poitiers, et qui va travailler sur la mise en place, notamment, de supports de sensibilisation sur ces questions de dérèglement climatique. Et la particularité, c'est que ça s'inscrit dans le cadre de notre projet de défi, qui est aussi un projet où on travaille avec des jeunes étudiantes et étudiantes en Nouvelle-Aquitaine, porteurs de projets sur des initiatives un petit peu qui accompagnent ces questions de dérèglement climatique, sur de la sensibilisation. Ça peut être également sur de la conception d'outils, du renforcement organisationnel ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de pousser. C'est également une partie très importante du projet Résister, puisque là, on a beaucoup parlé des femmes, mais il y a aussi toute une dimension jeunesse qu'on pousse aussi beaucoup sur ce projet-là, puisque les jeunes sont aussi avec les femmes les plus impactées. Les femmes, parce qu'elles gèrent tout le foyer, aller chercher l'eau, alimenter les feux de cuisson, etc., etc. Mais les jeunes, à un moment, il faut leur proposer des perspectives d'avenir. Sans perspective, c'est l'exode rural, donc les ressources qu'on a sur le territoire, elles partent dans les grandes villes, etc. Donc leur offrir aussi ces possibilités de travailler sur de l'agroécologie, sur des choses comme ça, c'est une manière aussi d'ancrer les jeunes dans leur territoire, de leur donner un poids aussi économique d'une part et social. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse sur ce projet-là, comme sur la plupart de nos projets et de plus en plus.
Et que ce soit là-bas ou ici en région Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, il y a cette question de développer la solidarité internationale, de sensibiliser à ces questions-là qui sont très importantes aujourd'hui et qui le seront peut-être même de plus en plus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans les médias, dans ce qui se passe dans les faits, quand on voit notamment certaines positions américaines, notamment sur des financements de l'aide internationale. Ce sont quand même... faut pas oublier que le dérèglement climatique, nous, on le vit déjà. C'est déjà très en cours dans les pays du Sud. C'est aussi les questions, en fait, de migration qui vont en découler, etc., etc. Et il est quand même aussi, je pense, de notre devoir d'humain de faire preuve de cette solidarité. Cette solidarité, elle passe aussi par le renforcement de compétences des gens sur place pour apprendre à vivre avec. On est tous obligés de vivre avec. Et il faut qu'on apprenne aussi à faire autrement ensemble.
Et c'est vrai que ce volontaire, cet étudiant tchadien va pouvoir témoigner parce que même si on le vit en France, ce dérèglement climatique, là-bas, ça devient vital.
C'est une réalité, en fait. Quand les pluies, elles arrivent avec un mois d'avance et qu'elles détruisent toutes les récoltes sur leur passage, concrètement, c'est demain, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que ma famille mange? Ça, c'est très, très concret, en fait, parce que ce sont des zones aussi qui sont très pauvres. Le Tchad, c'est un des pays les plus bas sur l'indice de développement humain. C'est le plus bas sur l'indice de fragilité justement climatique, c'est le 187e sur 187. Donc c'est quand même des choses qui sont d'ores et déjà en fait dans les radars des gens, devant leurs yeux, Et loin de la résignation, en fait, ils bougent, mais voilà, ils ont besoin d'un petit coup de pouce aussi, justement, pour pouvoir expérimenter, exprimer et trouver les solutions adéquates.
Bon, en tout cas, en région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes encore soutenu puisque vous obtenez 50 000 euros pour ce projet. Et si on veut en savoir plus sur tous les projets que vous développez, effectivement, dans différents pays d'Afrique et aussi en Haïti, vous serez, bien sûr, comme toutes les associations, à la journée des associations ce dimanche.
Tout à fait. On aura une équipe de collègues qui sera présente sur le village humanitaire, donc entre le village vie locale et mobilité, si je ne m'abuse. Et on sera ravis de vous accueillir pour vous informer, pour répondre aussi à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Si jamais aussi vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous suivre sur Instagram, sur notre page Initiative Développement ONG. Ça vous permettra de mieux connaître aussi ou de découvrir ce qu'on fait au Tchad, en Haïti, au Sénégal et même en France.
Merci beaucoup Alexandra Bénard d'être venue dans Séquence Midi. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour Idées, Initiatives, Développement. Cette semaine pour la musique, petit retour sur les artistes qui étaient présents cet été à Tours pour le festival Terre du Son. Et voici Jaël et Foran pour ce titre Loaded of Love.
De musique.
Tu sais.
J'ai bien entendu.
Et le tour est joué.
Non.
Lydia Hérault, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en charge de la viticulture et de Vitirêve, est avec nous pour évoquer la création d'un think tank consacré à l'agriculture de demain en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pourquoi avoir eu l'idée au niveau de la région de créer ce think tank dédié spécifiquement à l'agriculture de demain? Peut-être déjà par rapport au poids que représente le secteur de l'agriculture dans la région?
Oui, l'agriculture a un poids très très important dans la région. La région Nouvelle-Aquitaine reste quand même la première région agricole de France en valeur et avec une agriculture extrêmement diversifiée. On a à peu près toutes les productions dans cette région. Donc c'est important. Et puis on a cet attachement et cette importance qu'on met depuis plusieurs années à s'entourer de scientifiques, d'experts et à mener des réflexions un peu de long terme. On l'avait fait avec Aclimatera sur justement le changement climatique, avec Ecobios sur la biodiversité. Et puis on a mené l'année dernière une mission d'information et d'évaluation sur la politique agricole et alimentaire de la région où on a auditionné 110 acteurs du monde agricole. Donc c'est un peu une suite logique des réflexions qui ont émergé lors de cette mission d'information et d'évaluation.
Et justement, quelles conclusions vous tirez de cette enquête menée l'an dernier ?
Alors, des conclusions, on a fait des améliorations de nos politiques, on va dire. On a réorienté certaines choses, on a amélioré des dispositifs. C'était un petit peu ça, puisque c'était vraiment l'évaluation des politiques actuelles. Donc, comment elles répondent, en fait, aujourd'hui aux problématiques. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est comment on anticipe l'avenir et comment on répond aux grands défis de demain. C'est ça aussi qu'il faut qu'on fasse et c'est le but de ce think tank.
Parce que le constat, c'est ça, c'est que l'agriculture est en crise depuis pas mal d'années et qu'on répond à coup d'aide peut-être à chaque fois à l'urgence, mais qu'on ne se projette pas peut-être, pas assez.
On a des défis nombreux, celui de la souveraineté alimentaire, le défi démographique de renouvellement des générations qui est important, celui de l'évolution des pratiques, celui de l'adaptation au changement climatique avec toutes les questions hydrauliques et puis tout ce qui est la relation entre la santé, l'agriculture, que voudront les consommateurs citoyens demain, quel type de production Donc toutes ces questions, elles se posent et comment on adapte finalement nos exploitations agricoles et comment on les accompagne pour répondre à ces défis, c'est pas rien.
Et comment sera composé ce think tank, enfin qu'on pourrait dire Institut d'ingénierie politique en français, mais comment il sera composé, quelle sera sa mission aussi ?
Alors, il y a eu une première réunion le 17 juillet dernier. Il est composé d'économistes de l'INRAE, de gens de la Chambre d'agriculture régionale, de personnes qui travaillent dans des universités, mais aussi dans des groupes de production végétaux. On a la filière, on a les filières évidemment agricoles représentées sur les fruits et légumes, sur la viticulture, sur les productions végétales. On a des coopératives agricoles aussi. On a un panel assez large. Il y a à peu près 25 ou 27, je crois, membres pour aujourd'hui de cette sorte de commission, enfin de ce think tank, très diversifié en fait.
Et alors la première thématique pour cette première séance en juillet, c'était la sécurisation du revenu des agriculteurs. C'était important de mettre ce sujet-là en premier ?
Oui, bien sûr. Et alors on a eu des choses assez intéressantes, on a eu notamment des présentations, une de Vincent Châtelier qui est économiste à l'INRAE, qui nous a fait une approche macroéconomique. Et là, on voit effectivement qu'on a une dégradation continue de la création de richesses agricoles depuis 40 ans, sauf si on la ramène à l'unité de travail agricole. Là, on voit qu'elle progresse parce qu'il y a eu des gains de productivité. C'est le progrès technique. On voit aussi que les revenus des ménages agricoles sont très... Il y a une forte dispersion et un taux de pauvreté qui est quand même élevé et des revenus très volatiles, puisque c'est lié aussi beaucoup aujourd'hui, d'abord au type de filière, mais aussi beaucoup aux accidents climatiques et à la difficulté aussi de produire de façon continue tous les ans avec une régularité. Moi, je connais bien la filière viticole, on le voit bien, mais c'est vrai aussi sur d'autres filières. Donc, une vraie problématique de revenus. Et on a vu que dans les colères agricoles, on va dire, auxquelles on a assisté en 2024, la question du revenu, forcément, elle est au cœur du sujet.
Et quels objectifs vous êtes fixés lors de cette séance de lancement ?
Alors, on s'est fixé on a analysé ces colères agricoles et ces fractures au sein du monde agricole, et puis on s'est fixé des quatre grandes problématiques et quatre pistes de réflexion pour la suite des travaux, puisqu'on va se réunir régulièrement. C'était une mise en route, c'est la réunion de juillet. Donc, effectivement, la première réflexion, c'est sur comment on va sécuriser les revenus et accompagner les trajectoires d'entreprises vers des modèles agricoles diversifiés, résilients, comment on gère l'instabilité climatique et économique, avec quels outils de gestion des crises et des risques, finalement, qui soient des outils plus solides que les réponses au coup par coup qu'on peut avoir aujourd'hui. Comment on anticipe les évolutions des modèles économiques et sociaux? On voit que ça évolue beaucoup, l'exploitation, l'entreprise agricole d'aujourd'hui, c'est plus celle d'hier et demain, elle évoluera aussi dans sa forme juridique, dans la diversité des sources de revenus et des productions. Et donc ça, il faut l'accompagner. Toutes les questions de l'eau, effectivement, hein, on voit, on a des agriculteurs qui sont, moi j'en ai sur mon territoire, hein, qui sont maraîchers aujourd'hui, qui souhaitent agrandir leur production, qui fonctionnent bien. On n'a pas de problème de transmission puisque les enfants veulent s'installer, mais il faut de l'eau et on a un problème d'accès à l'eau, donc on a aussi ces questions-là. La deuxième grande thématique qu'on s'est fixée, c'est comment on redynamise l'élevage en Nouvelle-Aquitaine, parce que là, il y a besoin d'attractivité, de reconnaissance et de pérennité de cette filière. Après, on a aussi les questions de comment on accompagne et comment on réussit à massifier les questions de transition écologique, les changements de pratiques, et comment on articule agriculture, alimentation et territoire, comment on relocalise, avec une spécificité aussi de notre agriculture en Nouvelle-Aquitaine. On a 300 produits sous signe officiel de qualité, hein. Donc c'est les IGP, les AOC, les labels rouges, toutes ces questions-là. Donc on est la première région aussi pour ces signes officiels de qualité, donc comment on travaille autour de tout ça aussi.
Et comment ça va s'articuler par rapport à la feuille de route Néoterra, parce que la région a déjà mis ça en place et ça concerne aussi l'agriculture?
Oui, alors dans Néoterra, ça concerne effectivement des grands principes. Donc là, ça sera plus de trouver des outils concrets d'accompagnement.
Et voilà. Oui, allez-y.
Oui, non, mais...
Et donc, c'est justement ces outils concrets, quel est le calendrier que vous vous êtes fixé?
Là, on a des réflexions du cycle temps, je crois, pour une année. Donc on verra au fur et à mesure comment on évolue dans une réflexion où on doit tenir compte aussi de la nouvelle PAC et puis des difficultés un peu financières des collectivités locales, hein. Vous avez peut-être vu dans la presse Alain Rousset qui a alerté sur le fait qu'on a 200 millions d'euros en moins sur le prochain budget. Donc ça, il faut qu'on gère aussi cette difficulté-là. Donc il faut qu'on trouve des outils avec une forme de résilience aussi.
Et alors, vous évoquiez la question de l'eau, qui est effectivement très importante sur le territoire et qui crée beaucoup de débats et de polémiques. Comment vous allez réussir peut-être à rassembler les acteurs sur ces questions-là?
Alors, on l'a fait lors de la mission d'information d'évaluation, justement, et c'est une des questions sur lesquelles on a pas mal évolué. Et je crois qu'on a accompagné plus de 200 projets, hein, cette année, donc on le fait déjà, ça. Mais c'est pas... Alors, nous, on n'est pas sur l'accompagnement de gros projets. Il y a une ligne de partage aussi entre... l'agence de l'eau à Dour-Garonne et ce que fait la région Nouvelle-Aquitaine. Mais on accompagne déjà les agriculteurs sur ces questions. Hein. Il y a déjà des dispositifs. Et avec des dispositifs en même temps qui permettent, on est en train de mettre en place un contrat d'accompagnement sur justement l'évolution des pratiques, sur des pratiques plus agroécologiques quand il y a un accompagnement sur l'eau.
Et vous qui êtes en charge principalement de la viticulture, justement, quelles sont les actions qui pourront être mises en place via les réflexions de ce think tank pour ce secteur-là?
Alors là, on va les croiser. Justement, moi, je suis en train de travailler de façon un peu avec un zoom territorial sur la Haute-Gironde, à la demande des jeunes agriculteurs du territoire, sur une expérimentation de territoire où on travaille sur trois thématiques qui sont les vignes en friche et les terres en friche post-arrachage, toutes les questions de diversification et d'accompagnement territorial. Donc on va nourrir, je crois, le think tank et cette expérimentation de territoire vont se nourrir spécifiquement sur cette question viticole.
Merci beaucoup Lydia Hérault, conseillère régionale des Nouvelles-Aquitaine en charge de la viticulture et de Vitirev, d'être venue nous parler de la création de ce think tank donc consacré à l'agriculture de demain en Nouvelle-Aquitaine. Merci bien.
Merci à vous. Au revoir.
Bonne journée. Lundi, dans Séquence Midi, on parlera du coût de la rentrée, notamment pour les étudiants, suite à une étude de la FEB qui est sortie, et puis la création d'une chaire consacrée à l'énergie à l'Université de Poitiers. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Député avec ChatGPT et l'IA, c'est à 14h à l'espace Mendès France pour les adultes et les enfants à partir de 14 ans. Le plein tarif est de 15€ pour apprendre à dialoguer avec le fameux ChatGPT et à interpréter ses réponses. Thé dansant à 14h30 au théâtre Charles Trenet à Chauvigny. La Maison des Familles organise donc ce thé dansant au profit de ses actions d'hébergement, de soutien aux proches de patients hospitalisés. À partir de 14h30, l'orchestre Patrick Caron animera ce moment convivial. L'entrée est à 11€. Kermesse, la colloque Dragon Friends, c'est à 16h au local pour fêter la rentrée, passer la fin d'après-midi et la soirée avec la colloque Drag et ses invités. À 16h, workshop burlesque avec Anita Jean et à partir de 16h, marché de créatrices. À 19h, spectacle balade des Drag Kings chanteurs, comédie musique drag. À 21h, show drag de la colloque Drag avec bien sûr snack maison et boissons locales sur place à partir de 18h. Donc c'est au local. Soirée jeux de société, c'est à 19h à l'auberge de l'Abbaye à Noyers-Maupertuis. Que vous soyez novice ou passionné, si vous aimez les jeux de société, cette soirée est faite pour vous. L'association On se fait la belle vous propose une panoplie de jeux pour ce rendez-vous convivial des joueurs et joueuses de tout poil. Entrée libre et gratuite à partir de 19h. Et puis Munch faisant connaissance, c'est à 19h30 au Bibliocafé, un moment convivial pour échanger en toute bienveillance autour des sexualités alternatives, fétichisme, BDSM et bien plus. Sans thème imposé, cette soirée est l'occasion de se rencontrer, partager, découvrir les kinks et intérêts de chacun. Donc c'est sans réservation et c'est au Bibliocafé. Sur Pulsar, la rentrée des émissions, c'est à 19h, Poitou Pop, et à pour la réalisation technique. Et on se quitte en musique.